villes, bourgs, villages, toutes ces constructions sont de même matériau. Que ce soit l'église de Saint-Michel ou une masure de Mazières-à-l'Hérault, le bas, c'est les mêmes matériaux, issus des mêmes connaissances, des mêmes savoir-faire, façonnés par des outillages identiques, par les mêmes ouvriers qui travaillent de mémoire. Faut comprendre ce que c'est qu'un homme qui est analphabète. Ça ne veut pas dire sans culture. Attention, nous, on a fait le rapport, ça n'a pas du tout ça. Ils ont une culture immense. Mais ils ont une culture de mémoire, des représentations mentales. Et quand vous, ils n'ont pas besoin d'un gabarit pour tailler une pierre. Quand il l'a compris dans sa tête, il va en faire des identiques sans arrêt. Et il va être capable de la modifier pour le besoin que va lui donner. Pour les grandes cathédrales, les églises, il y a un architecte qui conduit les travaux et qui sait la pression des voûtes et qui la devine lui aussi de tradition. Cité ou campagne, même maçon, vous voyez, c'est des slogans, hein. Même tailleur de pierre, même culture de fidélité et de répétition et de transmission. Parce qu'on dirait petit patrimoine, d'accord, mais les églises, architectes, tout ça. Non, c'est les mêmes gens, avec des fonctions différentes, des envergures différentes, mais les mêmes, je vous ai bien dit, les mêmes savoir-faire, mêmes matériaux, mêmes outils. Alors les pierres. On va aller assez vite sur les pierres en Limousin parce qu'on en a beaucoup parlé. Revenons à notre géologie. Rapidement, avec un maçon, avec un truc comme ça, c'est noble. Le granit, mica schiste, gneiss, schiste ardoisé et bassin de Brive, grès et le calcaire. On va retrouver tout ça dans les constructions. D'abord en carrière. Alors ça, c'est une carrière inexploitée pour le moment, qui fut exploitée, de gneiss très noir, qui a servi pendant tout le 19e sans doute pour la voirie, mais aussi certainement les parties les moins effritées, moins brassées, qui a servi pour la construction. Ensuite, voilà ici, vous voyez très bien ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est du gneiss. Dans le pays des monts du Limousin, Saint-Thierry, etc. Vous voyez, il est lité comme ceci, mais il est fracturé verticalement par des diaplases qui ont brassé tout ça, l'érosion, sur des millions d'années. L'eau s'infiltre, elle attaque les feldspathes par hydratation, et tout s'enchaîne, tout s'écroule. Et elles arrivent même à se défaire complètement. Ça donnera ce qu'on appelle l'arène. Mais ça, c'est merveilleux à maçonner, hein, ce que vous avez vu là. Parce que c'est tout. Seulement, faut pas... Impossible de tailler. Faut comprendre la pierre et la poser. Je prends la pierre, je la pose. Il n'y a pas à chercher, celle-là va mieux. Non, ça n'existe pas. C'est dans les stages, ça. Alors ça, c'est le granit, avec des moyens modernes, des pressions. Vous voyez, ils sont par bancs horizontaux, parce que même le magma est mouvant, et il est attiré par le centre de la Terre, donc il se dépose... horizontalement. Plus ça va par en bas, moins les bancs apparaissent. Je ne sais pas comment c'est à 2 km plus bas. Hein. Alors maintenant, ce qu'on appelle les boules dans toute la haute marche, dans les monts de Blon, apparaissent des résultats de destruction géologique qui sont descendus de, je ne sais pas moi, 3 à 4 000 mètres. Tout ça, ça a été fractionné, c'est parti pour faire du sédiment. Puis à la fin de l'érosion, à la fin du tertiaire, tout à fait à la fin, c'est le Pliocène, je ne sais plus un moment, quelque chose comme ça, stabilisé parce que la végétation est arrivée, et ça a été une végétation stable, etc. Et apparaissent des endroits, des blocs, des résurgences erratiques de blocs, qui sont tous plus ou moins érodés, qui sont empilés les uns sur les autres, que si l'érosion continue à vitesse vertigineuse, vous verrez, hop, ça se dégage, vous descendrez 6-7 mètres plus bas, ces boules tomberaient, vous auriez un chaos granitique. Alors on appelle ça dans ce pays les boules. Construction de la boule. Premier temps, la boule est compacte. La masse rocheuse est compacte. Mais déjà, il y a des fissures, des sortes de diaclases qui se promènent par lesquelles s'infiltre l'eau. Deuxième temps, la végétation est apparue. Les grandes érosions du tertiaire, du secondaire n'existent plus. C'est la fin, la végétation. Alors, tout de même, l'érosion continue. La végétation disparaît, le végétal l'emmène tout, et autour des blocs de roches qui se décomposent, elles deviennent détritiques, ça veut dire en sable, si vous voulez, se dépose ce qu'on appelle l'arène. Arena, en latin, veut dire sable. Ça ne veut pas dire la piste où on fait marcher les chevaux. Les chevaux marchaient sur du sable, donc ça a pris le nom. Mais l'arène, les latins, ou les grands architectes latins, parlent de arena pour dire le sable. Mais ils n'allaient pas chercher ni le sable de rivière, ni le sable de la mer. C'est trop loin. Avec quoi aller chercher le train? Ça n'existe pas. Les moteurs, ça n'existe pas. Les dos de mulet. Alors on prend l'arène sur place, qui est un sable, puisque c'est le fruit de la désagrégation de la pierre. Donc ça a les mêmes composants. Désagrégation de l'arène, zone d'altération progressive, et boule de granit en formation. Elle n'est pas en formation, c'est mal dit, en voie d'apparition. Mais elle est en formation aussi parce qu'elle commence à se rondir. Oui, c'est pas mal. C'est moi qui ai écrit ça, alors donc c'est juste. Les boules à fleurs, naissance, voilà. Les boules à fleurs, voyez-vous, parce que l'érosion continue, et l'empilement est stabilisé, mais ça continue à droite et à gauche, hein, mais on ne le verra pas. Parce que vous rendez compte la longueur de temps qu'il faut. L'empilement est là, naissance laborieuse d'un chaos de granit, dans la haute marche, dans la montagne, dans les monts d'Ambazac et les monts de Blanc. Il n'y a que là que vous trouverez des empilements comme ceci, que les paysans appellent les boules. Deuxième chose sur les boules, c'est là que les paysans, les maçons, je dis paysans, hommes de pays, qu'ils soient avec une massette ou avec une pioche, c'est les mêmes gens. Et donc, c'est dans ces épierrements qu'on a commencé à tailler les encoignures, les choses de belles maisons, parce qu'on n'avait pas les outils pour aller en profondeur. Et les boules sont accessibles. Il suffit d'être au pan de la forêt de Chabrières pour avoir toutes les boules que vous voulez. Des millions de tonnes de boules. Alors, si vous arrivez à basculer une boule, à comprendre son lit, parce qu'il y a un lit, à la lui introduire par mortaise peu à peu des coins, à la fracturer et à vous arriver, les tailleurs de pierre comprennent le débit de la pierre, ils sortent des empoignures. Je vous parle de l'époque où on se sert du granit et des pierres pour faire les maisons que nous avons aujourd'hui, celles qui sont ici du 18e, 17e. Les paysans ont construit en pierre que guère à partir du 15e, fin 15e, 16e. Auparavant, c'est les poteaux, remplissage à l'argile, un petit muret autour. Bon, parce que pour travailler la pierre, il faut des outils. Et pour avoir des outils, il faut du fer. Et le fer est très cher, il est réservé, il n'est pas réservé, mais il est cher, donc il n'est pas accessible à tout le monde. Passons pour les boules, voilà des gars qui sont en train de travailler, mais là-bas, voilà des carrières, c'est pas très, très, très visible, mais vous apercevez, on ne les voit jamais au travail dans les photos qui ont été faites. Parce qu'ils se présentent tous, tout le monde, on va faire la photo, alors il y en a qui, alors il y a toujours à boire. Il y a toujours les outils ostensiblement montrés. Les gens sont très fiers, ils travaillent, ils sont descendus là-bas, il faut regarder de près. Ça, c'est vers Châtelut-Malvallée, je ne sais plus, je crois. Le Chêne, oui. Château-Vieux, Creuse, oh là là. Oui. Ça, c'est très intéressant à regarder de près, mais là, si vous ne pouvez pas bien voir. Il y a là-bas, il y a ce qu'on appelle un chabaneux, c'est-à-dire une petite construction, une clé en paille ou en genêt sous laquelle s'abrite le tailleur de pierre. Il est là-dessous, et c'est variable. Si le vent est là, si la pluie est là, vous la tournez, parce qu'elle n'a qu'un pieu. Il faut mettre quelques pierres plates en bas pour qu'elles ne s'envolent pas. Ils sont là sur la place de Sainte-Fère. Ils viennent de décharger avec un diable spécial pour la pierre. Ils viennent de charger des boules, des pierres épanelées, c'est-à-dire mises en pan, au moins à peu près carré. Le pan, c'est le mur. Et alors, c'est pour faire les piles du château, probablement. Là, c'est les pavés. La carrière du mot puits, en Creuse, on a fait des millions et des millions et des millions de millions de pavés pour paver les villes, 18e, 19e, surtout 19e. On pavait ces pierres-là. Puis il n'y a pas que les Limousins qui ont fait les pavés. On en a fait en grès de partout. C'était une aspiration qui vient des villes, on a pavé. Alors, les derniers tailleurs de pierre, c'est déjà la fin des tailleurs de pierre, ça. Parce qu'on ne taille plus pour les encoignures de maison, sauf pour les granges. Parce qu'on a construit des granges à la fin du 19e siècle, à cause de la révolution fourragère, il fallait augmenter le foin, on était obligé d'augmenter les barges, sans augmenter le troupeau, il fallait construire de nouvelles granges avec des encoignures. correctement, et c'est la dernière époque qu'on a taillé. Mais la grande construction, c'est fini. On fait du pavé, de la bordure de trottoir et des pierres tombales. Vous n'avez le témoignage des tailleurs de pierre aujourd'hui que ceux qui ont fait les pierres tombales, parce que l'époque des cimetières, 19e, ça a pris une ampleur énorme. Les cultes des morts, spécial en Limousin particulièrement, les pierres tombales, les bordures de nouvelles villes. Maintenant, on n'en fait plus, elles sont en ciment. Les bordures, c'est cuit. Il y avait un syndicat de bordures. C'est les Italiens qui faisaient tout ça. Les Italiens, ils sont venus pour faire ça, les bordures de trottoirs et les pierres tombales. Là, c'est de la carrière, ils construisent une église, là. Donc, ils sont obligés de faire... Là, il y a cet outil merveilleux qui n'est pas là, qu'on appelle la SMIL, qui est extraordinaire. Voilà les ouvriers, vous voyez, ils montrent les... Voilà. Bon, passons. L'arène. Alors, deuxième matériau indispensable, la pierre de différentes natures et la désagrégation de la même pierre pour fournir les sables. Arène égale désagrégation de la pierre de la roche-mère. Arène, qui veut dire sable, c'est le résultat de la dégradation de la roche-mère. La roche-mère, ici, s'est dégradée, il y a une couche d'arène, mais c'est des millions et des millions d'années pour avoir ça, vous comprenez. Alors, dedans, le quartz est resté intact, parce qu'il ne se désagrège pas, le quartz, tandis que le feldspath, par hydratation, se décompose, et le mica reste aussi. Donc, on a un sable qui est composé de les mêmes matériaux de la roche, donc il n'est pas un sous-produit, qui est un produit essentiel, authentiquement minéral. En voilà une autre, elle est près des Moutiers, entre Moutiers et Peyrales-Château, Saint-Amand. C'est magnifique, ce tuf-là, il est très... J'appelle tuf parce que... Alors, tuf, c'est un mot grec. Donc, ce n'est pas nous, paysans, qui l'avons inventé. Qui veut dire roche, tout ce qui est minéral est roche. Roche friable, c'est le cas. C'est comme de la roche, mais dès que vous tapez dedans, elle est friable. Elle se brise, elle s'éclate comme ce qui est là-bas. Alors, tuf, les Italiens ont dit tuffo, tuffus les Latins, et nous autres romans, nous disons tuf. Mais ça veut dire arène, c'est la même chose. Mais si vous allez en Bourgogne, les paysans, ils disent arène pour dire cette chose-là. Il faut le saisir au vol, parce qu'ils vous diront sable. Mais si, entre eux, vous leur disiez comment... comment ils disent ? Larine. Ils disaient larine, c'est l'arène. Alors, le paysan de la Bourgogne, avec qui je parlais, et il m'a dit, on allait chercher de l'arène, larine, il dit. Et on allait chercher de larine pour faire ça. À cette époque-là, on n'avait pas autre chose. Il parlait de son père. Lui, il avait 65 ans déjà. Il parlait de son père. Donc, c'est pas... L'arène, c'est bien connu dans le monde entier. Bien, voilà, l'arène, la voilà beaucoup plus grasse. Elle a plus d'oxyde de fer. Elle est donc... Alors celle-là, elle n'a pas besoin de colorant. Hein. Aucune n'a besoin de colorant. Parce que chaque pays sa couleur, mais sa couleur ne dépend pas des cabinets de faisabilité de coloristes. Ça dépend de la reine, c'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut être fidèle à ça. Il ne faut pas aller chercher le coloriste, la palette de nuances, qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais non, mais c'est aberrant. Il faut être fidèle à ce qui est sous les pieds. Bâtir. Tu me mènes vite, là. Hein? Alors, maintenant, on va voir. On a tout dit sur la reine ? C'est bon. Ah, il faut reconquérir le tuf, hein, ou la reine. Quand même, j'ai encore quelque chose à dire sur le tuf. Je peux dire quelque chose. Les maçons, moi je suis d'une famille de maçons. Ils ont toujours employé l'arène ou le tuf pour maçonner. Deux cas. Avant la chaux, c'est-à-dire avant 1870, avant les trains. Donc le premier cas, on est obligé de maçonner pour faire un mortier avec le tuf tout seul. À ce moment-là, on le choisit un peu gras, parce qu'il a de l'argile, et quand il est compacté à l'abri, l'argile qui a été malaxée avec de l'eau se solidifie. L'argile, c'est quand même un liant qui devient assez solide. Alors, on fait des murs de 60-70, avec boutis, panneresse, etc., on en parlera tout à l'heure, et on empile, mais attention, on ne compte pas sur le tuf pour faire des joints solides. C'est simplement du remplissage, parce que le maçon sait très bien que le tuf ne supporte pas la pression. Donc il faut que tout soit calé, que toutes les pierres soient vivement calées, joint vif. Après le chemin de fer, c'est-à-dire 70, 72, 80, mais 80 dans les communes du Bas-Limousin ou du Haut-Limousin, 80 avec le chemin de fer, arrive de la chaux vive ou de la chaux morte. Pour les engrais, c'est capital, ça a révolutionné les prés, ça, la chaux, hein, on manque de calcaire. Et pour les maçons, alors les maçons vont mélanger toujours de l'arène, mais ils vont la choisir maigre, plus maigre, comprenez, parce qu'elle aurait trop d'argile. Alors il faut qu'elle soit plus maigre, parce que la chaux va servir, il faut qu'elle enrobe tous les ingrédients, tous les petits fibres, les plus fines. On va quand même supprimer un peu de fil, on le choisira un peu plus maigre. Je sais que les maçons avec qui j'étais choisissaient, savaient exactement, là il est plus maigre, il va bien aller, là il est plus gras, ben, on n'a pas besoin de chaux, mais on maçonne à joint vif, etc. Et puis à cette époque-là, les tuffières, c'est le mot, sont partout. Chaque village a 3-4 tuffières. Il n'y a pas de carrière authentique de tuf, ça n'existe pas à cette époque-là. On demande à son voisin, en oc, je vais le dire en français, tu me permets bien d'aller, je vais dans ta châtaignerie, j'ai besoin de tuf parce qu'il faut que je refasse les tables des cochons. Ah, oh, ben Podelina, tu peux y aller, bien sûr, tiens, on ne va pas refuser d'aller chercher du tuf. Mais on ne le creuse pas à plein champ ni à plein pré. On le creuse toujours dans une châtaignerie parce que c'est taillable et corvéable à merci des châtaigneries. On creuse, si vous regardez les restes de châtaigneries, vous allez voir des failles, des fouilles, etc. Donc on va là.